En fait, ça fait plusieurs mois, après 6 mois, un peu plus, que le Seigneur me parle sur tout ce qui est les arts prophétiques. Alors, c'est peut-être un gros mot pour certains, mais voilà, tout ce qui est art et tout ce qui est créativité dans l'Église. Et du coup, voilà, donc ça va être un peu le thème de mon message ce matin. Donc du coup, je vais d'abord parler de ça et puis après, on aura l'occasion de mettre un peu ça en pratique dans la deuxième partie justement de la matinée. Et donc, je vais juste revenir déjà sur... juste mon parcours, moi. Donc, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études dans les sciences, puis après dans le social. Et après, j'ai réalisé qu'au final, j'aimais beaucoup les arts. Mais en fait, dans ma conception des choses... à l'époque, je comprenais que tout ce qui était un peu artistique, bon, bah, c'était bien, mais ça n'allait pas vraiment. Ça n'apportait que de la beauté, mais à quoi bon? Voilà, ça n'a pas forcément aidé les gens, ça n'a pas forcément ajouté un plus. Enfin, voilà, moi j'avais grandi un peu dans ce truc-là, et du coup, tout ce qui était créatif, j'aimais trop ça, mais je me disais, bah, c'est plus un petit loisir, une petite passion. Voilà, un truc qu'on fait le dimanche, après-midi, quand on ne sait pas quoi faire, ou les jours de repos. Et en fait, le Seigneur m'a parlé au fur et à mesure des années de ma vie, où il m'a dit, mais en fait, ça fait vraiment partie de lui, c'est vraiment quelque chose que Dieu aime, et on est tous créatifs. Et donc, du coup, je vais juste partir de ça, déjà, que la créativité, au départ, ben, elle n'est pas liée à juste une habileté particulière, ou quelque chose, un don ou un talent, mais... juste par notre essence en tant qu'être humain, on est créatif. Déjà, Genèse 1, verset 27-28 nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc déjà, Dieu créa l'homme à son image. Donc ça veut dire que rien que le fait que c'est un Dieu, Dieu est créateur, nous sommes à son image, nous avons aussi ce pouvoir créatif, créateur, et ça fait partie, c'est notre essence même. Et ce n'est pas réservé qu'à une élite. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous créateurs, on n'est peut-être pas tous des artistes dans l'âme, mais créateur, c'est quoi? On peut être créateur dans son entreprise avec des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, on peut être créateur dans le domaine de l'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de Dieu et qui nous a forcément donné et qui veut impulser sur la terre. Donc, ce n'est pas juste une élite, c'est vraiment juste une manière de voir les choses différentes. Et là, cette créativité, on l'a tous. Dieu nous a fait tous créateurs, tous créatifs. Et en fait, on peut l'utiliser de trois manières. Soit on peut l'utiliser ben, pour nous, avec, de manière purement humaine, ce que la plupart font dans le monde. Soit on peut l'utiliser en connexion, enfin, avec une source ben, de l'ennemi, entre guillemets, du diable. Voilà. Ou soit on peut l'utiliser où notre connexion, c'est avec Dieu. Et là, c'est là où ça change tout. Et donc, du coup... cette créativité, elle est bonne, elle est de Dieu. L'imagination en fait partie, parce que moi, j'ai grandi aussi tout ce qui était imaginaire. Oh, t'es un peu trop rêveuse. Je suis rêveuse. Je suis dispersée, on va dire ça comme ça. Donc moi, j'ai toujours vu ça comme un gros inconvénient, un gros défaut. J'ai les pensées qui volent et tout. Et je me suis toujours dit, il faut que tu arrives à te canaliser. Donc c'est un peu ce que certaines cultures ou religions même font, à essayer de faire le vide dans les pensées, le vide dans la tête. Sauf que Dieu... c'est un Dieu créatif, c'est un Dieu qui a des mystères, qui a une... la Bible dit qu'il a des mystères cachés, et l'imagination fait partie, c'est une plateforme qu'il nous a donnée pour notre créativité. Alors bien sûr, elle a besoin d'être purifiée, ok, on a des pensées qui ne sont peut-être pas de Dieu, et il ne faut pas les prendre, mais une imagination purifiée, c'est la plateforme parfaite pour que notre créativité puisse s'engouffrer. Donc la créativité dépasse le côté artistique. Et vous connaissez, il y a 7 sphères d'influence dans la société, l'éducation, la famille, le gouvernement, les finances, le social, les arts et médias, la religion, forcément, accessoirement. Je l'ai peut-être dit, je ne sais plus. Non, c'est bon. Et du coup, Dieu nous appelle vraiment à être créatifs dans tous ces domaines de la société, et pas que dans le domaine artistique. Mais là, je vais partir quand même. On est tous créatifs, mais je vais quand même aborder le domaine de l'art un peu plus en particulier, parce que je pense que l'art est dû à quelque chose de particulier, en tout cas qui me parle plus à moi et que j'ai envie de vous communiquer au niveau du côté artistique. Alors Dieu est le grand créateur. Ok, on l'a vu, Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc Dieu, c'est le grand créateur absolu, il n'y en a pas d'autre, c'est lui qui a tout créé, il a créé l'univers, il a créé la création, il a créé le souffle de vie, il a créé les humains, c'est le grand créateur. Et dans la Bible, le mot hébreu pour créer, quand, dans ces versets-là, quand il dit « créa », c'est le mot « bara », et ça veut dire « former de rien », donc quand il dit ou qu'il est formé de rien, mais il y a aussi, ça veut aussi dire « reformer à partir de matériaux existants ». Il y a vraiment les deux significations. Et Dieu, quand Dieu a créé, il a créé de différentes matières. Il a formé de la poussière, mais aussi il a soufflé, mais aussi il a dit. Et il crée de manière totalement différente. Et non seulement il a créé, mais en fait il a voulu, on le voit dans la Genèse, que Dieu, il n'a pas voulu mener le monde seul, mais il a voulu faire un partenariat avec les humains. Et dans Genèse 2, verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux, les animaux des champs. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme si Dieu il a créé, il a fait une partie, mais son désir, son cœur, c'est aussi que nous, on soit partenaire avec lui dans cette création et on a une part. Il nous laisse une part de créativité sur la terre, qui est quand même, moi, j'aurais jamais pensé. Je pensais que c'est Dieu qui avait... Non, il a dit, mais maintenant, c'est toi qui donne des noms. Tu vas nommer. Ça, c'est quoi? Un zèbre un... Voilà. Et donc, il veut vraiment partager ça. Et moi, j'avais vraiment l'image que... des flots, un peu. En fait, Dieu, il ne s'arrête jamais de créer. Il est créateur, il a créé les humains, mais tous les jours, quand on voit une petite plante qui pousse, les bourgeons qui s'ouvrent, je veux dire, il continue, il ne s'arrête pas de créer. Et la création, c'est vraiment, est sans cesse renouvelée. Et Dieu, c'est un peu comme cette création, ce pouvoir créateur de Dieu, c'est un peu comme, vous connaissez, je ne suis jamais allée le voir, hein, mais les chutes du Niagara. Il y a un flot, ça, je dirais, c'est un peu l'image de la créativité de Dieu. Il y a un flot qui déborde de lui. Et en fait, il attend qu'une chose, c'est que nous aussi, on puisse capter de ce flot pour nous aussi le déverser. Parce qu'en fait, on est appelé à être créateur comme lui l'est. Ça fait partie de nous, ça fait partie de lui. Et en fait, ça fait partie de la vie. Et bloquer ses flots, c'est bloquer la vie. Et du coup, je vais tout simplement parler, donc juste le côté un peu plus artistique en général, cette créativité. Alors non, je vais parler après. En fait, l'adoration, dans l'adoration, la créativité est un moyen, est un des moyens, je dis bien, qui nous connecte à Dieu. Et c'est déjà le premier point qu'on voit, c'est que la créativité, c'est vraiment un outil, un canal que Dieu utilise pour nous connecter à lui. Et ça, souvent, on l'oublie. Et quand on lit déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a établi les Lévites pour être carrément au service de la présence de Dieu dans le tabernacle. Et les Lévites, c'était quoi? En fait, ils utilisaient divers protocoles et avec divers objets qui avaient des symboliques. Ils utilisaient la musique, ils utilisaient les chants et tout ça pour être au service de la présence de Dieu, pour tout simplement cultiver la présence de Dieu. Et alors, on a plus l'habitude, donc là, c'est hyper large mon sujet, donc je ne vais pas parler sur la musique, les chants. Je pense que dans notre église, on est un peu convaincu que la musique fait partie de la louange, que voilà, c'est Dieu qui l'a, voilà, la musique, les chants inspirés. Et je vais parler un petit peu plus déjà de la danse, parce que c'est quelque chose qu'on vit un petit peu, mais qu'on connaît un petit peu moins. Et moi, j'ai beaucoup lutté avec ça, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai senti que dans ma louange, j'atteignais un cap. Et en fait, je chantais, je levais les mains et tout, de tout mon cœur, mais c'est comme si au fond de moi il y avait quelque chose qui je pouvais pas tout dire et j'avais envie de danser, mais je me dis mais danser je peux le faire dans ma chambre, je peux le faire dans mon salon quand je suis toute seule, mais franchement à l'église ça va pas, et parce que je vais être vue, je vais être non, on n'est pas là pour la danse, et voilà, c'est Dieu m'a fait aimer ça, c'est pas pour rien. Et du coup ça, j'ai creusé, parce que j'ai eu tout un combat pendant des années entre la danse, vivre la danse dans la louange. Parce que je ne voulais pas être vue. Okay. Et déjà, qu'est-ce que Dieu dit de la danse ? Ce que Dieu pense de la danse. Sophonie 3, verset 17, « Dieu se réjouit à ton sujet avec des chants. » Et le mot « réjouir » veut dire « tourner sous l'influence d'une émotion intense. » Psaume 32, verset 7, « L'Éternel m'entoure de chants de délivrance. » Et le mot utilisé, le mot « kabab » veut dire « tourner autour, tournoyer. » Donc en fait, déjà, l'Éternel en soi, c'est pas juste « il chante », c'est « il bouge, il danse autour de nous. » Et on voit que dans la Bible aussi, Jésus n'était pas timide de montrer ses émotions. Luc 10, verset 21. Jésus, plein de joie, dans certaines versions, c'est tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et le mot grec utilisé veut dire sauter de joie. Et donc, vraiment, la danse, déjà, fait partie du cœur de Dieu. Il est danseur. C'est le meilleur danseur, certainement. Et même dans l'Ancien Testament, on voit la première adoratrice danseuse dans la Bible, c'est Myriam, la sœur de Moïse. Donc, déjà à l'époque. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, dans Exode 15, verset 20, prit un tambourin dans ses mains et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des danses. Elle menait la danse avec un tambourin. Et il y avait des danseuses qui servaient la présence de Dieu, qui adoraient Dieu. Le roi David, on le sait aussi de Samuel 6, verset 14, David et toute la maison d'Israël célébraient l'Éternel de tout leur être, avec des chants, la harpe, la lyre, les tambourins. David dansait devant Dieu avec tout son être. Et ça a même été rabroué par sa femme parce qu'elle a trouvé un peu sa danse un peu exagérée, exubérante. Et au fond d'elle, elle a pas maudit, mais elle a méprisé. Merci. Et la conséquence de ça, qu'est-ce que ça a été ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle a été stérile. Et c'est Dieu qui a montré que par ce qu'elle avait fait, le fait de mépriser la danse devant Dieu, une danse, même si elle était exubérante, mais une danse faite de tout son cœur, Dieu a montré qu'il valide ça. Mais par contre, il a clairement une conséquence de fait de mépriser ce que l'autre faisait avec tout son cœur. Donc la danse a vraiment un rôle important dans l'adoration, un rôle important dans le corps de Christ. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de récupérer et de vivre, pas juste pour certains, mais c'est le côté de vivre la louange de manière avec tout son être. Et Simon, dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes 15, versets 16 à 18, nous dit que l'Éternel relèvera le tabernacle de David. Et le tabernacle de David, donc c'est là où il y avait la louange 24 sur 24, vraiment l'adoration. Et en fait, je pense que relever, reconstruire ce tabernacle de David, ça fait, la danse en fait partie. En fait, on ne peut pas relever le tabernacle de David sans que la danse fasse partie prenante du royaume et de la louange. Et donc c'est un petit peu court, mais non seulement l'adoration, donc honore par la danse, mais aussi d'autres moyens créatifs, honore Dieu, ça l'élève, ça le glorifie, mais en plus, ça impacte les autres. Et dans l'Ancien Testament, on voit que qui dansait aussi, la Bible parle des prophètes danseurs. Il y avait les prophètes qui dansaient. 1 Samuel 10, versets 5 à 6, dans le mot utilisé, c'est le mot naba, est souvent utilisé ou traduit par danser. Et c'est donc Samuel qui parle à Saül, et qui lui dit, tu rencontreras un groupe de prophètes, ils danseront, ils crieront, tu les rejoindras dans leur danse et dans leur cri, et tu seras changé à un autre homme. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, Saül, quand il a rejoint ce groupe de prophètes, l'ambiance était, il a tellement été contaminé par cette ambiance, par cette présence de Dieu, qu'il s'est mis à louer Dieu, à danser, à crier, et il est écrit, il a été transformé en un autre homme. C'est-à-dire que ça a tellement impacté dans sa vie, dans son esprit, qu'il a été rempli de la présence de Dieu et il a été différent à partir de ce moment-là. Donc à la fois, ça affecte le cœur de Dieu, mais ça affecte aussi nos propres vies et la vie de ceux qui nous entourent. Et donc, voilà, c'est un des canaux créatifs que Dieu a utilisé, que Dieu veut utiliser dans nos vies. Alors, je parle de la danse, il y a aussi d'autres manières. Alors, vous voyez qu'on utilise aussi les bannières un petit peu dans l'église, et c'est quelque chose aussi qu'on aimerait développer encore davantage, parce que les bannières aussi, moi à l'époque, je croyais que c'était un peu un folklore quand j'ai grandi. Ouais, des églises, c'était. Voilà, je trouvais ça un peu, honnêtement, un peu nunuche, il faut le dire quand même. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, moi j'étais un peu, ça m'a un peu rebutée. J'ai dit, oulala, je ne sais pas si un jour je ferai des bannières, moi. Et au final, maintenant je fais des bannières, ok, aussi, un petit peu, mais. Et les bannières, donc je vais, pareil, c'est tout un enseignement, je vais être hyper succincte, mais c'est. Les bannières, en fait, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose qui est parlé, qui est vraiment dans la Bible, dès l'Ancien Testament, où déjà Moïse avait brandi son bâton. C'était, on a vu un message sur ça de Brice il y a quelques semaines, lors d'une bataille contre les Amalécites. En fait, il levait son bâton comme un étendard, c'est dit, comme une. Et en fait, quand il avait les bras en l'air, le peuple de Dieu gagnait la bataille. Et quand il baissait les bras, le peuple commençait à perdre la bataille. Et donc la bannière, je ne vais pas développer en particulier, mais il y a quand même une dimension qui est importante, une dimension de combat dans la louange, une dimension de proclamation, une dimension de... Une bannière, c'est fait pour être visible sur la terre et dans les lieux célestes. Et c'est une prise de position. Et c'est quelque chose qui n'est... C'est pas anodin, et c'est quelque chose que qui fraye les chemins. Quand on voit dans les films où souvent il y en a un à cheval et il a la bannière, c'est lui qui démarre la bataille et puis les autres ils sont derrière, entre guillemets. Et c'est lui qui brandit l'étendard. Et en fait, l'étendard, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on brandit pour frayer des chemins, pour frayer des chemins dans la louange, pour frayer des chemins dans nos propres vies. Et c'est quelque chose aussi qu'on n'utilise pas de manière anodine, surtout... Alors les enfants, c'est plus qu'un drapeau, mais quand vraiment on est dans le sens étendard et tout ça, ça a vraiment une puissance spirituelle, il y a vraiment une notion d'identité, de ralliement et d'unité ensemble. Parce que la bannière fraye un chemin dans tout ce qui est louange, dans tout ce qui est adoration, et peut être utilisée vraiment pour prendre des territoires, mais dans les lieux célestes, pour que Dieu élargisse son royaume. Donc c'est quelque chose aussi à laquelle on veut donner la place. On a eu un atelier la semaine dernière sur les bannières, c'était génial ce qui était là. Aussi, on a vraiment vécu des choses, on a grandi, merci Nicolas, qui ouvre un chemin aussi dans tous ces domaines-là. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment aussi donner la place à ça dans notre église, parce qu'il y a une puissance derrière. Et je vous dis, on ne fait pas pour un folklore, ok? Moi, je ne suis pas très folklorique. Et voilà, j'aime quand les choses elles ont du sens. Et vraiment, c'est quelque chose qui a du sens aux yeux de Dieu, et aux yeux du monde spirituel. Et waouh, ça passe trop vite le temps. Et un autre aspect, donc je vais revenir plus au niveau des arts manuels. La Bible parle des arts dans Exode 31, où justement Moïse voulait donc... Moïse devait construire vraiment ce tabernacle. Et en fait, il avait donc Moïse, vous vous rappelez, Dieu lui parlait face à face, et donc il allait à la montagne voir Dieu, et il lui donnait, Dieu lui parlait, il lui disait qu'est-ce qu'il devait faire pour la suite, c'était quoi les choses importantes, c'est quoi qu'il avait appris de Dieu. Et dans Exode 31, nous dit, l'Éternel parla à Moïse et il dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est la première personne dans la Bible dont on parle qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est Betsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan. Et en fait, on voit que l'Éternel a pour but de construire donc ce tabernacle. J'ai dit tabernacle de David la dernière fois. Bref, ce tabernacle avec Moïse. Et la première chose, les premières personnes qui va remplir de l'esprit, c'est un artisan, un artiste, pour qu'il puisse soit inspiré, pour qu'il puisse manier, pour qu'il puisse fabriquer, qu'il puisse créer des choses inspirées par Dieu et avec les directives de Dieu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de là, l'Éternel va demander à tout le peuple, ceux qui veulent encourager ça, à donner leurs offrandes pour la construction du tabernacle. Et ils viennent, ils se donnent de l'or, du fil de pourpre, et des femmes viennent et disent, ben moi je sais, elles vont donner leur capacité, moi je sais coudre les tissus, et du coup chacun va venir avec ses dons et ses talents pour construire ce tabernacle. Et ça montre déjà que à la fois, donc dans l'Ancien Testament, tout ce qui est, bon, du coup, les artisans, l'artiste, l'artisanat, a été utilisé pour construire le tabernacle. Et c'est aussi une image que l'art, la créativité, encore aujourd'hui, permet de construire le trône de Dieu, permet d'élever vraiment sa présence et permet de manifester sa présence, d'élever son tabernacle dans nos vies et dans notre communauté. Et du coup, je ne sais pas si vous... Il y a beaucoup ça, enfin, des fois à l'époque, où, je ne sais pas moi, menuisier, père et fils, on voit sur les... voilà. Et alors des fois ça peut être plus pour une histoire d'argent, il veut refiler sa entreprise à son fils, mais souvent à la base c'est une passion qui est communiquée, c'est quelque chose qui a tellement été là, qui a été communiqué à l'enfant et du coup il va continuer. Et moi j'ai donc voilà une pour histoire, quelqu'un de proche qui en fait son père était très doué dans tout ce qui était bois et en fait elle est allée vers lui et elle disait est-ce qu'on pourrait faire un petit meuble, j'aimerais faire un petit meuble pour ma maison. Mais c'est comme avec Dieu. Lui, c'est le créateur de tout. Si nous, on vient avec notre petite créativité, j'aimerais, je ne sais pas, je viens avec ça. Mais il ne va pas s'empêcher de nous dire, mais oui, trop bien, alors on peut faire ça, et puis il y a ça, et attends, je vais t'aider. Et en fait, elle a sorti de ça, de cette relation du coup avec son père, de ce temps-là, des meubles incroyables qu'elle n'aurait jamais pu faire par elle-même. Et c'est ce que la créativité inspirée fait. Et ça l'a connectée avec son père d'une manière, ils ont des souvenirs inoubliables. Et à chaque fois qu'elle revoit ses meubles, ses trucs qu'elle a construits avec son père, ben ça lui rappelle son père. Et en fait, c'est un peu le principe de la créativité aussi, c'est que du coup, il nous rend capables de faire l'impossible au travers de faire impossible au-delà de nos capacités. Et ça nous connecte à lui et ça laisse une trace de qui il est et de ce que Dieu a fait. Et ça, c'est vraiment un des aspects des arts. Et du côté créatif, c'est que ça nous connecte. On aime bien dans l'église, on a ce côté up, connexion verticale, in, connexion intérieure, et out, connexion vers l'extérieur, horizontale. Et en fait, tout ce qui est créatif, ça nous connecte à la fois à Dieu, ça nous connecte dans notre être intérieur, ça transforme nos vies, j'en parlerai un peu plus tard, et ça touche l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu négligé, mais qui est tellement important. Ah oui. Alors, parce que je me suis posé vraiment la question, mais pourquoi tout ce qui est créatif, pourquoi l'art, ça peut à la fois connecter, ça peut nous aider à connecter avec Dieu, connecter avec nous-mêmes, connecter avec d'autres, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Dieu m'a vraiment parlé, il m'a dit, mais en fait, c'est parce que l'art, ben, ça touche les cinq sens. Et les cinq sens, c'est la porte de nos cœurs. C'est les portes de nos cœurs. Et en fait, c'est pour ça que même dans la société, tout ce qui est artistique, ça nous influence, ça touche le monde, ça ouvre les cœurs des gens, et ça nous touche nous aussi. Et Dieu, il nous parle comment ? Eh bien, il nous parle par ses cinq portes, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on lit, par ce qu'on touche. C'est comme ça que Dieu nous parle. Et du coup, l'art, tout ce qui est artistique et créatif, c'est carrément une porte ouverte à nos cœurs, pour Dieu et pour les autres. Parce que ça touche à tout. L'art, c'est vraiment, là, il y a la musique, il y a le goût, l'art culinaire. Dans la Bible, on voit, Et donc, c'est un autre aspect, c'est que la créativité prophétique, elle nous aide à connecter avec Dieu, connecter avec nous-mêmes, nous transforme et elle touche les autres. Elle transforme les vies. Dans 1 Roi 10, versets 4 à 5, vous savez, Salomon, il était connu pour sa sagesse, pour sa gloire, pour ses richesses. Et la reine, il y a une reine de Séba qui est dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Donc elle vient un peu sceptique. Et elle dit, je vais lui poser des questions. Verset 4, 1 Roi 10, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Et elle vit aussi la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs. Donc elle était touchée par l'architecture. Les fonctions, les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons, c'est les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et plus loin, au verset 9, il est dit, elle-même dit, béni soit l'Éternel ton Dieu. En fait, en voyant tout ce qui avait été créé, tout ce qui avait été donc créé donc dans la présence de Dieu, inspiré par Dieu, ce que Dieu avait donné, elle ne put que glorifier Dieu. Elle dit elle-même, béni soit l'Éternel ton Dieu. Et en fait, c'est ce que la créativité fait aussi, c'est un pouvoir. Ça peut avoir un pouvoir destructeur quand c'est connecté au mauvais, à la mauvaise source, mais c'est un pouvoir constructif et c'est un pouvoir qui peut changer les cœurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut vivre aussi donc, dans la louange, pour à la fois rendre gloire à Dieu, mais aussi en sachant que quand même quand on le vit dans la louange ou à l'extérieur de l'église, la créativité connectée à Dieu, elle touche le cœur des autres. Elle rend visible ce qui est dans le ciel, elle rend visible la beauté de Dieu, et elle rend visible les réalités invisibles de Dieu. Et la créativité, forcément, a besoin d'être vue, elle ne peut pas rester cachée. Et il y a aussi ce verset dans 1 Corinthiens 2 qui dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles du monde, avait destinée pour notre gloire. » Et plus loin, il est dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et il y a vraiment cet aspect-là de la louange, c'est que Dieu nous invite vraiment à connecter avec son cœur, à connecter avec ce qui se passe dans le ciel, à connecter quand on crée, même peu importe une chanson, quelque chose, même si c'est une chanson séculière, entre guillemets, mais d'être connecté à Dieu et de le rendre visible sur la terre, parce que ça a un impact. Ah oui, et on a des exemples dans l'église et des exemples aussi même chez moi, je ne sais pas si... Combien de fois mes enfants ils m'ont fait un dessin. Je dis punaise mais ça me parle trop ton dessin. Et j'ai senti Dieu me parler au travers de leur dessin. Et me fait un dessin pendant qu'Olivier joue à la louange ou voilà. Combien de fois il y a eu donc au salon du paranormal, il y avait une petite équipe qui était là. Ils ont fait des dessins inspirés, juste des dessins. La personne était là. Je sais pas s'il est là, s'il pourrait raconter. Dessine-moi quelque chose. Et du coup l'équipe de l'église qui était là, a commencé à dessiner, elle a montré ça à la personne, elle a dit « Mais comment tu peux savoir ça de moi ?» Elle s'est mise à pleurer, ils ont pu prier, ils ont pu prophétiser, le truc de fou quoi. Vraiment, c'était un message inspiré de Dieu qui touche et qui ouvre les cœurs. Et concrètement, donc, le royaume de Dieu, la Bible nous dit, Matthieu 18, verset 1 à 3, appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et il y a tout un aspect que je dirais, nous, on a tendance à perdre dans notre créativité en tant qu'adulte. Pablo Picasso a dit « Chaque enfant est un artiste, le problème c'est de rester artiste quand on grandit. » C'est pas faux. Et du coup, si vous connaissez l'histoire de Narnia, il y a cette armoire magique et en fait, la petite fille, elle passe l'armoire et là, il y a tout un monde en fait, qui est réel, mais que les autres ne peuvent pas intégrer dans leur réalité rationnel. Et en fait, c'est un peu cette dimension-là où Dieu nous invite dans son univers, lui, le grand créateur, à aller puiser des richesses qu'il a, à aller puiser dans cette créativité pour les amener dans le monde. Et c'est quelque chose qu'on veut, que bien sûr, ça nécessite qu'on purifie nos cœurs, qu'on purifie ce canal, parce qu'en fait, donc, il y avait les chutes du Niagara, mais en fait, je sais plus, après, j'ai mis une image d'une rivière. C'est comme si en captant, vraiment, en se connectant à cette source que Dieu est, eh ben, on peut être voilà, nous-mêmes un torrent, mais on peut être un torrent d'eau dégueulasse si on ne travaille pas sur nos cœurs, si on ne travaille pas à guérir des blessures qu'on a et tout ça, ou on peut être un torrent d'eau limpide qui va amener la vie partout où on est, partout où on va, et toucher les cœurs. Et on a vraiment aussi ce rôle-là de protéger un peu tout ce qui est artistique. Et en fait, pour revenir sur ça, en fait, j'ai été vraiment travailler, bon, enfin, pas par rapport à ça, mais je vais vous dire, vous savez, il y a quelques semaines, le Louvre s'est fait cambrioler, ok ? Il y a eu le vol du Louvre, il y a eu des œuvres voilà, artistiques, des bijoux, qui touchaient la nation et tout, qui ont été volés. Et j'ai senti, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu pareil. C'est comme si l'Église, on s'est fait un peu voler tout le côté artistique dans l'Église et on l'a donné au monde. Et en fait, on a besoin de retrouver cet art, on a besoin de retrouver ça pour vivre une dimension nouvelle dans le royaume de Dieu. Et en fait, il faut savoir que l'Église, à la base, elle ne s'est jamais arrêtée de mener tout ce qui était créatif sur la terre. Partout où le christianisme est passé, je parle du christianisme, en fait, ça a influencé des poètes, des écrivains, des musiciens, Handel, Beethoven, Bach, des Narnia, C.S. Lewis, tout ça, ils ont été inspirés, ils ont été impactés par les arts au sein de l'Église. Tout le monde va en Italie voir la chapelle Sixtine, et quand on voit ces représentations du ciel, les gens ils font « mais waouh !» Parce que c'est l'Église avait ce rôle-là, elle avait compris son mandat dans la société, d'impacter la société par la créativité, par l'art. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, parce qu'il y a eu des dérives, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à adorer des peintures, à adorer des statues. C'est comme si, à la période de la réforme avec Martin Luther à Genève, c'est comme si tout ça, ça a été balayé, mais on a balayé le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, du coup, l'Église est devenue froide, stérile, sans très neutre, alors qu'on a un Dieu créatif, coloré, versatile, plein de vie. Et en fait, du coup, on en a fait vraiment un Dieu froid, sans visage, distant, lointain. Et c'est comme si, parce que l'Église, en laissant de côté vraiment son mandat créatif, elle a arrêté d'être une voix, et une voix prophétique pour le monde et pour la société. Parce que l'art, c'est une des seules choses qui peut traverser le monde, peu importe les circonstances, dans la guerre, dans les difficultés, dans les milieux où il y a des religions, où le christianisme ne peut pas rentrer. L'art, c'est une des seules choses. Et il y a un artiste chrétien qui a été en Corée du Nord, ou je ne sais plus où, et en fait, c'était interdit de parler de Dieu, interdit de prêcher, interdit de faire quoi que ce soit. Ils ont dit, par contre, tu fais ce que tu veux. Il a commencé, il dit, je peux chanter. Il a dit, oui, tu peux jouer de la guitare. Il a commencé à jouer, et là, les soldats ont commencé à pleurer, à chanter, à machin. Une mélodie est venue, il a une mélodie inspirée, qu'ils ont gardée. Il a vu pour la première fois des soldats sourire. Et en fait, parce que l'art, ça perce tout. Et en fait, l'Église a besoin de reprendre ce mandat créatif pour toucher le monde, toucher le cœur de Dieu. Ça nous transforme nous-mêmes et toucher le monde autour de nous, parce que l'art passe partout. Les jeunes, il y a des jeunes là, voilà, reprenez ça, ok? Parce qu'il n'y a rien qui est... On a fait vraiment de l'art ce côté... c'est païen, c'est pas beau. Mais en fait, l'art appartient à Dieu. Et c'est juste à nous de le reprendre. Et il y en a beaucoup qui l'ont compris. Et même au sein de l'Église, des fois, vous savez, il y a beaucoup de rites paganistes et païens où ils font des danses culturellement, des danses ensemble, des danses collectives. Et nous, on dit, oulala, fou, tout ça, oh, on ne veut pas ça dans l'Église. Mais en fait, c'est parce que l'ennemi a compris que c'est une puissance. Quand on se réunit, quand il y a une unité ensemble au travers des arts, il y a une puissance. Et que du coup, l'ennemi l'a pris, mais parce que l'ennemi ne peut pas créer. Il n'a aucun pouvoir créateur, il ne peut que voler et tordre ou imiter. Et en fait, c'est à l'Église de reprendre ça, parce que c'est Dieu nous l'a donné à l'Église, et qu'il y a une puissance, une dimension encore plus grande lorsque l'art est vécu de manière collective. La danse, la bannière, il y a une dimension surnaturelle de plus, et qui restaure des vies et qui change l'atmosphère dans les lieux célestes. Donc, en gros, voilà, j'ai vraiment senti que le Seigneur voulait vraiment qu'en tant qu'Église, on reprenne ça et qu'on ne cherche pas, le but, ce n'est pas juste de chercher la créativité, de chercher ce qu'il y a au fond de moi. Non, mais en cherchant Dieu, Dieu créateur, on trouvera. En fait, de ne pas chercher la créativité, mais chercher Dieu créateur. Et là, les flots vont couler, le reste va couler, ce flot plein de vie qui peut toucher les cœurs, qui peut guérir, qui peut délivrer. Et... moi, c'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter de plus en plus, mais il y a combien de... Pendant les vacances, en fait, j'ai voulu aller voir une exposition photo. Non, mais franchement, j'y suis allée, j'avais pris ma fille, j'ai regardé les trucs, j'ai commencé à sentir mon ventre se nouer, se nouer, se nouer. J'ai pris Elsa, ma fille, j'ai dit, on y va. J'ai dit, je suis désolée, on avait payé le truc et tout, on est parti. Franchement, j'ai dit, mais c'est... au travers de l'art, ça touche les cœurs. C'était violent, angoissant, immoral, complètement immoral. On voyait la souffrance, mais de la souffrance de manière horrible. Et je dis, mais imaginez si, connecté à Dieu, on communique la beauté de Dieu, on communique l'émerveillement, on communique tout ça. Mais le monde n'aura qu'une envie, c'est de dire, mais je veux votre Dieu, quoi, c'est qui ? Ah oui, et j'ai oublié ce petit truc de la musique. En jouant la musique, les gens ont commencé à avoir des visions. Et ils ont commencé à dire, j'ai vu un homme en blanc, c'est qui? Et là, il a pu dire, je vais te dire qui c'est. Il s'appelle Jésus. Voilà. Et donc, tout ça pour dire voilà, que c'est quelque chose qu'on veut reprendre, que c'est quelque chose qui nous connecte à Dieu. Et même moi, j'ai expérimenté au niveau de la louange, maintenant, même chez moi, ou même des fois, je me sens pas forcément de louer le Seigneur. Je me dis, oh là, je pense à ça, j'arrive pas, je chante 2-3 chants. Et quand je commence à danser, à mettre une musique et à danser, c'est comme si ça va au-delà de mes capacités et c'est comme si ça connecte encore plus parce que justement, comme on a dit, Dieu, par les cinq sens, il ouvre nos cœurs, il touche nos cœurs à nous, il nous transforme nous et ceux des autres. Donc, on va juste prier et puis après, l'idée, c'est de passer un petit temps de louange où on peut expérimenter un peu cette louange plus créative et entière, je dirais. Ensemble, il y aura les enfants qui vont revenir, mais on mettra un petit peu de cadre quand même. Mais je vais juste rappeler que en fait, on a besoin quand même dans nos cœurs pour grandir dans ce côté créatif, ce côté artistique, pour connecter avec Dieu, on a besoin quand même de franchir des caps et d'oser dépasser les barrières de la peur. La peur de faire un truc moche, si c'est par exemple créatif. La peur de se lourder en danse. Moi, c'était ma peur, mais si jamais je m'affale. Mais j'imagine la honte. Ben voilà, des fois j'ai trébuché, c'est pas grave, je suis pas morte, ok? Et ça travaille nos cœurs. Et donc la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de se dire, mais si on me voit. Ouais, mais d'un côté, Dieu, il peut toucher le cœur même en regardant une danse. On a fait un atelier danse, on avait fait un temps où on dansait autour de personnes comme une prière. Franchement, c'était trop beau. Il y en a plusieurs qui ont eu des témoignages qui ont été trop touchés par ce moment qu'on a vécu juste en regardant la danse de quelqu'un. Et de ne pas avoir peur, donc de dépasser ses peurs. Et nous, en tant qu'église, en tant qu'individu, d'accueillir la créativité de quelqu'un. Ok, peut-être que ça ne va pas vous toucher à vous particulièrement, voilà. Mais d'accueillir, bravo, tu as été courageux, bravo pour ce que tu as fait. Et de honorer les personnes qui ont fait ça, honorer, voilà, et de créer un climat, je dirais, de sécurité, de confiance, où on peut, voilà, se développer, faire des erreurs, des échecs. Je veux dire, aucun artiste n'est arrivé là où il en est sans avoir fait des grosses tasses sur son tableau. Voilà, il faut le dire. Et de se dire que voilà, c'est là aussi où on veut aller et d'oser être cette communauté aussi qui encourage, qui protège ça et surtout que tout ce qui est artistique, c'est quand même vulnérable, c'est un peu imprévisible aussi, donc ça fait peur, surtout pour la louange, mais c'est aussi vulnérable et tous ceux qui sont dans le domaine des arts, que ce soit professionnellement ou même la louange, l'équipe de louange, ils sont exposés parce qu'ils sont vus, ils sont entendus, et donc c'est souvent des personnes qui... Voilà, qui sont exposés. Et nous, en tant que communauté, on a aussi besoin d'entourer tous ceux qui sont dans ces domaines-là ou qui se lancent aussi dans les domaines un peu plus artistiques ou créatifs.